Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a levé les sanctions financières contre la Guinée et les restrictions contre le Mali après avoir annoncé hier samedi la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger. En Guinée, la CEDEAO avait interdit les transactions financières avec ses institutions membres un an après l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021 au Mali. Le bloc régional avait imposé des sanctions économiques et financières qu'il a levées en juillet 2022 quand les militaires au pouvoir avaient annoncé leur calendrier de transition. Samedi, la CEDEAO a décidé de lever avec effet immédiat les plus lourdes sanctions imposées au Niger. Au Burkina Faso, au moins 15 fidèles ont été tués et 2 blessés ce dimanche lors d'une attaque terroriste perpétrée contre une église catholique dans le village d'Essakane, dans le nord du pays. L'annonce est faite par le vicaire général du diocèse de Dori, l'abbé Jean-Pierre Sawadogo. Il explique que l'attaque est survenue pendant que les fidèles étaient réunis pour la prière du dimanche. L'abbé Sawadogo dit souhaiter la paix et la sécurité au Burkina Faso, fustigeant ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans son pays. Le village d'Essakane se trouve dans la zone dite des trois frontières aux confins du Burkina Faso, du Mali et du Niger, un repère de groupes djihadistes. Des pays africains producteurs de coton dénoncent les distorsions causées aux échanges commerciaux de coton par les grands pays industriels. Ils appellent l'OMC à trouver une solution lors de la réunion ministérielle qui s'ouvre demain lundi à Abu Dhabi. Depuis 20 ans, les distorsions causées aux échanges commerciaux de coton n'ont cessé de compromettre la vie de millions de producteurs de coton en Afrique en général, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce du Tchad, Ahmad Abdelkarim Mahamat, s'exprimant lors d'une conférence de presse à Abu Dhabi au nom des pays du C4 qui regroupe 4 pays gros exportateurs de coton, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Intérêt d'entente.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Un terrain d'entente a été trouvé lors de récentes négociations à Paris visant à décrocher une trêve à Gaza, c'est ce qu'a déclaré Jake Sullivan. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela parce qu'ils sont toujours en train d'être négociés, ajoute le conseiller du président américain Joe Biden. Des technocrates égyptiens, qataris, américains, israéliens et des cadres du Hamas ont repris ce dimanche à Doha les négociations pour une trêve à Gaza selon une télévision proche du renseignement égyptien. Ces discussions seront suivies de réunions au Caire selon Al-Qaharia News fin novembre au terme d'une trêve d'une semaine négociée sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Une centaine d'otages retenus à Gaza et 240 Palestiniens écroués par Israël ont été libérés. Volodymyr Zelensky a jugé que la victoire de l'Ukraine va dépendre de l'aide militaire de l'Occident. Le président ukrainien s'est montré optimiste quant à la capacité du Congrès américain à voter une enveloppe d'aide de 60 milliards de dollars pour l'heure bloquée par des élus républicains de la Chambre des représentants. 31 000 soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre, pas 300 000 ni 150 000 comme le disent Poutine et son cercle de menteurs. Mais chacune de ces pertes est une grande perte pour nous, a ajouté le président ukrainien. Kiev et Moscou refusent normalement de communiquer sur leurs pertes militaires respectives. En Syrie, au moins 13 ramasseurs de truffes ont été tués dans l'explosion d'une mine du groupe djihadiste État islamique dans une zone désertique dans le nord du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le groupe djihadiste a été défait territorialement en mars 2019 par une coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis et alliée aux forces kurdes. Mais de nombreux combattants djihadistes se sont repliés après dans le désert syrien et de nombreuses mines terrestres sont présentes dans la zone. L'Iran a condamné les frappes des États-Unis et du Royaume-Uni menées hier sur des sites des rebelles houthis au Yémen, accusant Washington et Londres de faire monter la tension et les crises dans la région. Depuis mi-janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené plusieurs frappes au Yémen contre des houthis qui désignaient aussi les navires américains et britanniques comme des cibles légitimes désormais. C'est tout pour ce bulletin d'information. Présentation Yacouba Ouédraogo. Merci à vous de l'avoir suivi et de rester connecté sur VOA Afrique. Je vous reviens dans 55 minutes, mais en attendant, l'info continue sur voafrique.com et sur nos plateformes sociales. On se dit à tout de suite.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Voix et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakis avec vous, Michel Pierre-Joseph assure la réalisation et la mise en onde. Ce soir, nous explorons l'influence des doctrines et des interprétations religieuses sur la perception et la lutte contre l'antisémitisme. Comment les textes sacrés et les croyances façonnent-ils cette réalité? Quelles sont les actions entreprises par les institutions religieuses pour combattre ce fléau? Restez avec nous pour cette discussion approfondie sur l'antisémitisme religieux. Je suis en ligne avec la journaliste Frida Darmani, spécialiste du Moyen-Orient et réside à Tunis, dans le pays de Bourguiba. Bonsoir Frida.
Bonsoir.
Le père Grégor Prichotko, originaire du Kazakhstan, est également avec nous. Il est rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Mon père, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Mon père, on peut avoir votre bénédiction avant peut-être de commencer cette émission?
Bien sûr que le Seigneur vous bénisse.
Merci à mon père, à Frida, votre bénédiction.
Oui.
Comment les musulmans font?
Tamshifel Amen, c'est-à-dire que la paix soit avec vous.
Merci.
Que la paix soit avec vous.
Que la paix soit également avec vous. Je vais commencer avec vous, mon père. En quoi les enseignements du christianisme ont-ils été interprétés à travers l'histoire pour justifier l'antisémitisme? Et comment cela est-il perçu aujourd'hui?
Alors donc, concernant la terminologie employée actuellement, il faut bien distinguer deux choses. L'antijudaïsme religieux, qui commence à se former dans l'Antiquité tardive, et l'antisémitisme dans le sens moderne. Comme toute hostilité anti-juive, cette notion a été formée surtout sous l'influence en partie de Hannah Arendt, qui définit l'antisémitisme moderne comme idéologie laïque du 19e siècle. Donc dans notre cas, nous pouvons parler justement de ce anti-judaïsme religieux. Selon l'historien juif américain Yosef Yerushalmi, historiquement, on peut établir même une périodisation tripartite de l'antisémitisme en soi. Donc l'antisémitisme ancien et païen, nous parlons de l'Empire romain ou de l'Empire perse, par exemple, l'antisémitisme médiéval et chrétien, donc qui a trouvé ses origines dans cette attitude assez stigmatisante des chrétiens par rapport aux juifs, et l'antisémitisme moderne et laïque, qu'on peut rencontrer largement dans la société contemporaine. Il est vrai que toute la tension dans l'antijudaïsme religieux résulte du difficile équilibre entre la continuité d'un héritage contenu dans l'Ancien Testament et puis l'affirmation de monopole de l'Église chrétienne de la vérité révélée, avec l'affirmation de christianisme en tant que religion officielle de l'Empire romain en 380 sous l'empereur Théodose, dans les textes patristiques commence à se développer une théologie de la substitution en qualifiant l'Église comme vrai et nouvel Israël. Par conséquent, c'est une position normative est marquée d'une supériorité sur l'ancien Israël, malgré l'épître de Saint Paul aux Romains qui nous dit que, en effet, la place incontournable qu'occupent les Juifs dans l'économie chrétienne du salut est une place importante. Les pères de l'Église commencent à mettre en place cette théologie de substitution et finalement, il y a Saint Augustin qui explique la survivance des Juifs et leur dispersion comme un témoignage de la validité du Nouveau Testament. Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, dessine les Juifs comme la preuve vivante d'un châtiment lié au déicide. C'est notamment cette accusation, érigée en faute collective et associée à un châtiment divin, qui marquera le début l'antisémitisme médiéval. Et cette stigmatisation théologique, malheureusement, sera institutionnalisé sous des formes juridiques et sociales, en régime de séparation entre les chrétiens et les juifs à partir du concile de Latran IV en 1215, dans lequel l'antisémitisme moderne prendra racine. Heureusement que auquel le concile Vatican II définitivement mettra la fin.
Frida, comment l'antisémitisme a-t-il été historiquement présent ou interprété dans les textes et pratiques islamiques et comment cela se traduit-il aujourd'hui?
Alors, paradoxalement, il n'y a pas vraiment d'antisémitisme en islam. D'abord, je voudrais en préambule dire que tout ce qui se passe actuellement et qu'on rapporte de l'antisémitisme n'est qu'une démonstration de barbarie de part et d'autre. Donc je voudrais déjà évacuer cette question très très contemporaine, je veux dire, de ces derniers mois. Par contre, pour en revenir donc à l'antisémitisme en islam, il n'existe pas pour tout ça. La bonne et simple raison que d'abord l'islam n'est pas en tension ni en rivalité avec les autres monothéismes, même au centre de la révélation faite au prophète Mohammed, il est lui-même invité à lire et à écrire tout ce qui met l'islam, range l'islam parmi les expressions des gens du livre, c'est-à-dire aux côtés de la chrétienté et aux côtés du judaïsme. En même temps, ce qui est paradoxal par rapport aux personnes qui vivent dans le monde musulman dont je fais partie, étymologiquement, ce mot en français, antisémitisme, je le trouve très très choquant, parce qu'il est en même temps entendu comme une hostilité vis-à-vis des fils ou des descendants ou des pratiquants de la langue de Sem, dont les Arabes font partie au même titre que les Phéniciens et les Juifs, mais cela est considéré comme un racisme anti-juif, tout simplement. Alors que beaucoup rappellent que sur la fameuse liste, si tant est qu'il en avait une, d'Hitler, les Arabes étaient juste après les Juifs dans son objectif de pogrom. Mais oublions ça aussi. Il faut revenir à la Genèse. La Genèse, c'est tout simplement déjà en 622, quand le prophète Mohammed a été persécuté par les siens et qu'il quitte avec les premiers fidèles la Mecque pour Yathrib et qui deviendra la ville de Médine, cet épisode est commémoré comme l'Hégire. C'est une date très importante, fondatrice de l'islam. Dans cette oasis de Yathrib, située à 600 km au nord de la Mecque, il y avait une importante communauté juive qu'il a reçue, qui était constituée de trois tribus qui étaient en conflit entre elles et avec les autres communautés. Mais à partir de cette installation de Mohammed, mais qu'en même temps cette arrivée plutôt, ça va être perçu comme une opportunité pour certaines tribus, de fait que Mohammed lui-même allait proclamer la constitution de Médine ou le règlement de la communauté de Médine qui permettait à tout le monde de vivre ensemble en ayant évacué toutes les raisons politiques et en les empêchant de l'emporter sur les considérations religieuses. Donc cet acte fondateur fait que nous avons en fait vécu en paix. Alors maintenant, nous n'avons peut-être pas vécu ensemble, quand on voit ça avec le recul du temps, nous avons vécu côte à côte, mais ce côte à côte a fait que nous avons fait un chemin ensemble, d'où le fait qu'on soit un peu perdu pour certains, qui ne comprennent pas très très bien qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expression de la hargne, de l'hostilité, de la violence actuelle, et qui ne comprennent pas non plus l'antisémitisme, puisqu'ils se sentent concernés. Donc du coup, ça déplace pas mal de curseurs. Donc les liens entre islam et judaïsme donc, sont très anciens. Et c'est vrai qu'ils sont, il faut le reconnaître, teintés d'ambiguïté. Alors les juifs sont tantôt loués, tantôt critiqués, mais finalement c'est aussi ce qu'on fait avec nos frères, nos voisins, etc. Ça fait partie des gens qui sont dans notre environnement direct. Et en même temps, cet antisémitisme, qui est une production récente pour nous, paraît absurde quand on est dans une religion qui reconnaît des prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, Joseph, etc., et même Jésus, de toute façon. Donc voilà, il n'y a pas d'antisémitisme en islam au sens racial du terme, mais on pourrait dire reconnaître aussi qu'il y a eu un statut spécial accordé aux Juifs, qui est le statut de zémitier, qui signifie être le protégé du calife, du roi ou de celui qui dirige. Donc ça leur donnait une protection supplémentaire, mais ils étaient considérés comme des citoyens au même titre que les citoyens musulmans. Donc avec une séparation, bien entendu, du politique, du religieux, ce qui est quand même essentiel et qui explique peut-être aussi pas mal de désordres actuels.
Donc dans les textes, tout est clair, mais dans la pratique, c'est une réalité.
Ah oui, absolument, dans la pratique, il y a une réalité, mais selon moi, très modestement, je pense que cette réalité n'est pas à imputer à de l'antisémitisme. Elle est à imputer à une haine qui s'est installée depuis 75 ans, quand des gens ont été spoliés de leur terre. Quand on voit ce qui se passait au Moyen-Orient avant 1948, il n'y avait strictement aucun problème des communautés qui vivaient ensemble. On n'avait pas vu vraiment de conflits ni religieux ni politiques internes à la région, je veux dire, qu'il ne soit pas le fait de colons ou le fait de puissances extérieures et étrangères, les gens vivaient ensemble. Ça ne posait aucun problème. Personne ne se battait pour savoir qui avait la suprématie ou qui était prioritaire sur Jérusalem, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que tout était beau, que tout allait très bien, etc. Oui, on était, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui et reconnaître, en paix. Arrivé en 1948 avec l'installation d'Israël sans avoir consulté absolument les autochtones, pour ne pas les appeler les Palestiniens, voilà ce qui se produit pratiquement un siècle après, 75 ans après. C'est le drame.
Père Grégoire, votre réaction ?
Effectivement, la situation actuelle, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas brutalement une montée de l'antisémitisme, mais c'est une nouvelle explosion d'un volcan dormant, en quelque sorte. Et nous voyons actuellement dans le contexte politique mondial que les volcans anciennement apaisés par les organisations internationales telles que l'ONU, par exemple, etc., finalement, certains problèmes n'étaient pas guéris, mais juste ont donné antidolorifique en quelque sorte. Et ensuite, dans le contexte actuel, on vit à une époque de réveil de ces anciens problèmes, qui sont des problèmes graves, bien évidemment, qui détruisent les vies des personnes, qui marquent notre existence d'une attitude, d'une haine, vraiment d'une barbarie étonnante. On se pose des questions, est-ce que l'humanité vraiment est capable d'avoir une vision nouvelle des choses en ayant toute cette expérience douloureuse, pensons au XXe siècle, à la Première, Deuxième Guerre mondiale, aux autres guerres qui se sont déroulées, on a l'impression que l'humanité apprend très peu de choses pour, encore une fois, se plonger dans cette violence sans égale. C'est très dramatique. C'est très dramatique.
Alors, comment l'Église catholique a-t-elle évolué dans sa compréhension et sa position vis-à-vis des relations avec la communauté juive, Père Grégoire ?
Oui. Nous savons qu'une grande population juive était basée notamment dans les pays de l'Europe de l'Est. Je parle de la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la partie donc occidentale de la Russie ou de l'ancien Empire russe, si on veut. Également, l'immigration était très présente, ou les communautés juives, depuis des siècles, étaient très présentes dans les autres pays européens. Nous souvenons le comtat vénitien qui est devenu le territoire pontifical où il y avait toute une catégorie, une communauté juive appelée les juifs du pape qui jouissait de la protection du souverain pontife quand les papes étaient basés à Avignon. Mais dans sa doctrine et sa vision des relations, on voit une nette évolution qui va s'accentuer dans les relations entre l'Église catholique et puis la communauté juive, surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et cette évolution va se développer tout au long du XXe siècle. Rappelons que déjà Pie XI, en 1928, condamne la haine contre, je cite son encyclique, contre le peuple choisi par Dieu autrefois, cette haine que l'on dessine d'ordinaire sur le vocable d'antisémitisme. Et puis le même pape en 1937, avec la montée du national-socialisme allemand, condamna l'antisémitisme aussi dans son encyclique Mit Brennen der Sorge. Mais à cette époque, on peut considérer quand même qu'une partie de l'Église, en rejetant bien évidemment la persécution violente, continua quand même à soutenir une certaine marginalisation juridique des Juifs dans les États européens. Heureusement que cette évolution a continué à faire son travail. En 1959, le pape Jean XXIII supprima les termes qui figuraient dans l'horizon de Vendredi Saint, qui qualifiait les Juifs comme des perfides. Vous voyez, c'est déjà c'est toute une révolution. Et finalement, la déclaration Nostra Aetate promulguée au Concile de Vatican II en 1965, affirma que l'Église déplore les haines, les persécutions, les manifestations d'antisémitisme dirigées contre les juifs, quelle que soit leur époque et leurs auteurs. Donc c'était vraiment le point cardinal de cette évolution qui a marqué ce changement fondamental dans les relations où les juifs étaient considérés comme une catégorie des personnes marginalisées. Et donc, citant cette phrase donc, de la déclaration en 1986 à la synagogue de Rome, Jean-Paul II ajoutait, je répète, quels que soient leurs auteurs, donc les auteurs des crimes antisémites. Il insistait donc sans doute aux auteurs chrétiens du passé, dont certains, parmi les plus illustres, ont développé une pensée théologique qui entraîna discrimination des juifs. Donc, à Strasbourg, en 1988, le pape Jean-Paul II rappelait, je répète à nouveau avec vous, la plus ferme condamnation de tout antisémitisme et de tout racisme, car il s'oppose aux principes du christianisme même. Et donc, en mars 2000, devant les rabbins réunis à Jérusalem, Jean-Paul II déclarait, nous souhaitons que le peuple juif reconnaisse que l'Église condamne totalement l'antisémitisme et toute forme de racisme, car ceux-ci sont en opposition radicale avec les principes du christianisme. Et finalement, la déclaration de Benoît XVI lors de son voyage en France en 2008 disait que l'Église s'élève contre toute forme d'antisémitisme dont aucune justification théologique n'est recevable. Par conséquent, certaines idéologies qui a imprégné la théologie de certains théologiens chrétiens qui pourraient être dans le courant antisémite, était une fois pour toujours détruite. Donc l'Église a clairement exprimé sa pensée concernant l'antisémitisme qui est un crime et elle le condamne fermement.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Comment l'islamophobie peut-elle être liée à l'antisémitisme et comment lutter contre ces deux formes de discrimination?
Alors, l'islamophobie, c'est l'autre revers de la même médaille, tout simplement, parce que c'est ce qu'on fait subir aux musulmans, c'est le méchant musulman, c'est la haine du musulman, c'est de toute façon la haine de l'autre. C'est l'autre qu'on ne supporte pas dans sa différence. Je vais dire une chose qui me paraît absurde parce que ce n'est pas du tout ainsi que je vois le monde. Mais c'est vrai que nous avons, nous, par exemple, le maghrébin, le tort d'être aux yeux d'un Occident qui se veut plus blanc que blanc, d'être basané, tout comme les juifs séfarades qui sont aussi nos compagnons sur cette terre du Maghreb. Il faut se souvenir que la synagogue de Djerba, la Ghriba, a été fondée juste après le premier exode à la chute du temple de Salomon. Donc il y a une histoire commune qui est très très longue. Donc l'islamophobie aujourd'hui, on la vit nous de la même manière que l'antisémitisme seulement. Il y a un facteur plus grave, aggravant, c'est qu'on y a aussi ajouté le terrorisme. C'est que très souvent, des actes qui sont des actes islamophobes sont aussi justifiés par « oui, ce sont des terroristes ». Alors qu'on ne dit pas la même chose par rapport à quand qu'on attaque des symboles de la religion juive. Donc tout cela, ça crée effectivement un malaise. Surtout que nous, on a du mal à comprendre l'antisémitisme parce qu'on est tellement proche que ça nous trouble, cette position. Donc voilà, c'est une attitude très bizarre. Mais en même temps, j'estime que ces jours-ci, on fait une grave erreur quand on focalise tout sur l'antisémitisme. C'est un mouvement qui est très à la mode, disons, dans une certaine Europe. Mais j'aurais bien voulu entendre les mêmes voix qui s'élèvent pour les droits de l'homme, qui s'élèvent pour les droits des peuples, pour la liberté des personnes. Quand il y a eu, par exemple, l'invasion du Haut-Karabakh, qui est un territoire arménien, ou même par rapport à cette guerre en Ukraine, qui se banalise au maximum, alors que tous les jours, il y a des civils qui meurent. Et pareil, bien entendu, pour la Palestine, mais que ce soit ce qui est inadmissible, c'est tous ces morts de part et d'autre, ces jeunes, et surtout, surtout, ces générations à venir qui vont rester traumatisées par ce qui aura été vécu. Là, ce qui a été vécu en presque 60 jours, c'est peut-être pire que n'importe quel autre drame qui aura été vécu, et je mesure mes mots, par cette génération-là depuis sa naissance, ou ceux qui sont nés après, dans l'après-guerre n'ont jamais vu pareille horreur. Donc voilà, du coup, il faut, à mon avis, transcender ces histoires d'antisémitisme et d'islamophobie pour revenir à des choses qui nous parlent plus en tant qu'humains, parce que tout simplement, le fond, ces choses sont très politiques. On les a ramenées sur un niveau social, notamment. C'est vrai que, par exemple, le judaïsme, notamment depuis la Shoah, discute avec le christianisme. C'est vrai que nous, les musulmans, on est dans une position un peu troublée, un peu troublante, mais on se considère quand même, et c'est ça qui est paradoxal, plus proche des juifs que ne le sont les chrétiens. Et c'est sans doute bon, ce qui crée beaucoup et participe beaucoup au malentendu du Moyen-Orient.
On note une montée de l'antisémitisme depuis quelques temps. Est-ce que ça vous inquiète, vous, personnellement, Frida ?
Ah, absolument, absolument. Surtout qu'en plus, cet antisémitisme est pratiquement légitimé. Alors qu'il soit légitimé par les dirigeants politiques, qu'il soit légitimé par les oppositions politiques, on en fait quelque chose de tout à fait... On en fait même un argument électoral. C'est ça qui est très grave. Alors qu'il y a des populations musulmanes, pas forcément arabes d'ailleurs, qui vivent sur les mêmes territoires, qui ont des nationalités, je ne sais pas, italiennes, françaises, etc., qui sont des citoyens à part entière, mais on les juge à travers leur religion. Et c'est d'autant plus paradoxal que ça se passe dans des pays laïcs. Donc c'est aussi absurde que lorsqu'aujourd'hui Israël dit que c'est une démocratie, alors qu'elle écarte les Israéliens d'origine arabe, les Israéliens d'origine chrétienne. Donc voilà, c'est tout un... On est dans un moment où le monde devrait s'arrêter et prendre des décisions clair et savoir vraiment où il veut aller. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'humain est en train de s'auto-détruire. On ne peut pas être dans une telle incohérence rien que pour les générations futures. Pour nous, c'est peut-être déjà fini, mais pour les générations futures, on doit leur laisser un héritage cohérent.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci au père Grégor Krichotko, originaire du Kazakhstan. Je rappelle que vous êtes rattaché au laboratoire droit et société religieuse, chargé de cours à la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes docteur en droit canonique. Merci beaucoup, mon père.
Merci beaucoup, Eric. Et merci à Frida pour ce dialogue très intéressant.
Merci à vous.
Oui, merci à Frida, journaliste qui est à Tunis et spécialiste du Moyen-Orient. Frida, merci pour votre contribution.
À bientôt. Merci à vous tous.
Merci, Eric Manilakis a été avec vous au micro. Michel-Pierre Joseph a assuré la réalisation et la mise en onde. Merci également à tous nos fidèles auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.
Désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.